Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Midi, temps universel, il est 14h à Paris et à Bruxelles. Merci d'écouter RFI.
RFI Midi.
RFI Midi se poursuit tout de suite avec le journal de Jean-Baptiste Marot. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à tous. C'est le premier depuis les élections européennes d'il y a 3 semaines. Il est sur le point de démarrer à Bruxelles. Les dirigeants des 27 se retrouvent en ce moment même dans la capitale de l'UE pour un nouveau sommet. La réunion doit notamment entériner les noms de ceux qui vont occuper ce qu'on appelle les top jobs de l'Union. Nous irons sur place dans un tout petit instant. À la une également, la fin de la campagne pour le premier tour des législatives en France. À J-3 du scrutin, question. Aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, les inondations à répétition qui ont touché la région l'automne et l'hiver dernier peuvent-elles avoir un impact dans les urnes? Reportage à suivre dans le village de Blandec dans cette édition. Nous irons aussi en Mauritanie, à l'avant-veille ici du premier tour de la présidentielle et puis également aux États-Unis où le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de la présidentielle de novembre a lieu la nuit prochaine. Alors ce débat peut-il convaincre les indécis qui ne savent pas encore pour qui voter? On verra que rien n'est moins sûr avec un reportage dans la banlieue d'Atlanta.
Et direction tout de suite Bruxelles, donc, où les dirigeants des 27 sont en train d'arriver.
Et pour participer à un nouveau sommet, le premier, je vous le disais, depuis les élections européennes du début du mois, à l'ordre du jour, notamment la validation du nom des 3 personnes qui vont occuper les postes clés des institutions européennes, les top jobs, comme on les appelle. Pierre Benazet, vous êtes le correspondant de RFI à Bruxelles. Pierre, a priori, pas de suspense, hein. Les 3 familles politiques de la majorité sortante au Parlement européen ont décidé de reconduire leur coalition pour les 5 prochaines années et les nominations sont quasiment déjà actées.
Oui, selon ces 3 familles, c'est déjà acquis ce tiercé des nominations pour diriger la Commission, la diplomatie européenne et le Conseil. La droite, les sociodémocrates et les centristes libéraux se sont mis d'accord mardi déjà sur leur liste définitive. Ursula von der Leyen maintenue à la Commission. L'ancien Premier ministre portugais António Costa présidera le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement. Et la Première ministre estonienne Kaja Kallas dirigera la diplomatie de l'UE. Mais cette décision est vécue comme un oukase par les 3 pays qui ne sont pas dirigés par un membre de cette coalition. C'est surtout le cas de l'Italienne Giorgia Meloni, dont le parti a fait un bond très net au Parlement et qui rue dans les brancards. Une négociation pourrait déboucher sur un lot de consolations, comme la promesse d'un portefeuille élargi pour le futur commissaire italien.
Et Pierre, et parmi les autres sujets majeurs qui vont être évoqués lors de ce sommet, il y a l'agenda stratégique que les 27 doivent adopter pour s'engager sur les priorités des années à venir.
Oui, prospérité, démocratie, sécurité, ce sont les 3 axes principaux. De cet agenda. Dans la sécurité figure évidemment au premier rang la volonté de se tenir aux côtés de l'Ukraine pour les années à venir. Volodymyr Zelensky est d'ailleurs ici en ce moment. Il est venu signer un pacte de sécurité par lequel l'UE grave dans le marbre tous ses engagements en termes de sécurité et de défense, des points déjà connus, mais rassemblés en un seul pacte d'un poids symbolique considérable parce qu'il acte que l'UE est devenue un acteur géopolitique assumé.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Merci Pierre. Le sommet européen ou le premier tour des élections législatives de dimanche en France sera évidemment aussi dans toutes les têtes cet après-midi, alors que l'extrême droite fait toujours la course en tête dans les sondages. À 3 jours du scrutin, la campagne se poursuit dans l'Hexagone. Ce soir, elle sera entre autres marquée par un nouveau débat télévisé entre les 3 principaux blocs en lice. Il aura lieu cette fois sur France 2 et comme mardi soir sur TF1, c'est Jordan Bardella et Gabriel Attal qui seront là pour représenter respectivement le Rassemblement National et la majorité sortante. Pour le nouveau Front Populaire, en revanche, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, remplacera Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Alors ce débat, justement, peut-il encore faire changer d'avis certains électeurs, ceux du Pas-de-Calais, par exemple, victime d'inondations à répétition cette année, imputées au réchauffement climatique, mais aussi à une mauvaise gestion des sols, avec une bétonisation inadéquate qui perturbe le cycle des eaux de pluie et des rivières. Le drame et les considérations environnementales qui l'accompagnent peuvent-ils peser dans leur choix au moment de se rendre dans l'isoloir? On voit ça tout de suite avec Igor Strauss à Blandec, le village qui a été le plus meurtri par les inondations de cet hiver.
Située au bord de la rivière, la maison de Joël, ancien ouvrier, a été inondée 3 fois cette année.
7 novembre. 11 novembre. Et 3 janvier. La troisième fois, 1m70. J'ai des ongles, quoi.
La gestion des travaux a laissé des traces.
J'ai fait une dépression, quoi. L'année dernière, disons que j'ai pas pété un câble avant, mais après, je me suis retrouvé à l'osso, quoi.
Ce qui préoccupe Joël aujourd'hui, c'est l'état de la rivière.
À la rivière, il n'y a rien qui bouge. On voudrait quand même que ça n'arrive plus, quoi.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement?
Les recroiser, et puis mettre des plaques de ferraille assez hautes pour pas que la rivière déborde, quoi.
A-t-il la fibre écolo?
Pas du tout, hein. C'est les écolos qui nous embêtent, là. Parce qu'il faut protéger les grenouilles, les salamandres, ici et là, je suis pas contre. Mais les rivières, faut les recroiser, parce que nous, on est pêcheurs. Donc quand on va à la rivière, on voit bien qu'il y a moins de fond qu'avant.
Mais vote-t-il?
Moi, je vote. Ça devrait même être obligatoire.
Pour qui?
Le RN, directement.
Et il pourrait régler quoi comme problème, le RN, justement?
Je sais pas. Je pense pas qu'il ferait quelque chose pour nous, par les inondations, mais enfin, on ne sait jamais.
Aux dernières élections européennes, le Rassemblement National a obtenu 50,7% des voix à Blandec, les écologistes seulement 1,7%.
Ouais, face au vote massif annoncé pour le RN dimanche, un vote pour lequel on a désormais dépassé les 2 millions de procurations, preuve de l'enjeu que représente le scrutin pour de nombreux électeurs, une nouvelle personnalité du monde du sport sort du silence aujourd'hui. Il est important de s'éloigner des extrêmes, a déclaré tout à l'heure la star du basket français Victor Wembanyama, qui évolue chez les Spurs de San Antonio NBA.
Et cette fin de campagne pour le premier tour des législatives anticipées en France, elle coïncide aussi, Jean-Baptiste, avec ce premier anniversaire de la mort du jeune Naël.
Oui, Naël, vous vous en souvenez sans doute, c'est cet adolescent de 17 ans hein, tué au volant d'une voiture par un tir à bout portant lors d'un contrôle de police à Nanterre, en banlieue parisienne, il y a un an, jour pour jour. Immédiatement érigé par beaucoup en nouveau symbole des violences policières, l'événement avait déclenché dans la foulée 8 jours d'émeutes dans tout le pays. Alors aujourd'hui, un an après, où en est l'enquête sur les faits? On fait le point tout de suite avec Laura Martel.
Ce 27 juin au matin, la police prend en chasse une Mercedes au comportement erratique, conduite par Naël, 17 ans, sans permis. La voiture finit bloquée par la circulation. Une vidéo filmée par un témoin montre deux policiers sur le côté du véhicule, armes braquées sur le conducteur, puis l'un tire tandis que la voiture redémarre. Naël est tué d'une balle en pleine poitrine. Cette vidéo vient contredire la première version policière, selon laquelle les agents se trouvaient positionnés face au véhicule. Mis en examen pour homicide volontaire le 29 juin, l'auteur du tir est, chose rare pour un policier, placé en détention provisoire pendant 5 mois. Depuis le drame, plusieurs expertises ont été demandées, notamment pour définir dans quelle mesure Naël, qui porte des traces de coups au bras, a pu être frappé par les policiers. En mai dernier, une reconstitution a été organisée pour établir notamment si les policiers étaient en danger au moment du tir. Pour le conseil de la mère de Naël, le policier n'était pas en danger. Au contraire, l'avocat du policier en a conclu qu'objectivement, le policier n'a pas été écrasé, mais il a pu ressentir qu'il aurait pu l'être.
Vous avez compris, on vote en France ce week-end, mais on vote aussi en Mauritanie. Samedi, près de 2 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour désigner là-bas le nouveau président en ce dernier jour de campagne. Ce jeudi, les 7 candidats en lice vont donc tenter de mobiliser une dernière fois les habitants de Nouakchott, la capitale notamment. Nouakchott, où la majorité d'entre eux ont décidé d'organiser leur dernier meeting. Précision, Léa Breuil.
Dans les rues de l'hypercentre, les tentes électorales encore désertes actuellement s'animeront ce soir en musique pour le dernier jour de campagne. Les meetings de clôture commenceront, eux, à partir de 17h dans la capitale. Celui de l'actuel chef de l'État, Mohamed Oulcher Razouani, aura lieu dans l'enceinte de l'ancien aéroport. Le président candidat a déclaré que son prochain mandat serait celui de la jeunesse. Son parti a été le plus visible pendant la campagne avec la mobilisation de nombreux moyens. Les meetings de clôture des candidats de l'opposition sont aussi très attendus après leur tournée à l'intérieur du pays et une campagne à Nouakchott qui s'est principalement concentré sur du porte-à-porte et l'usage des réseaux sociaux, principalement pour des raisons financières. Celui du candidat Madi Sidel Mokhtar du parti du Tawassoul, deuxième force politique au Parlement, aura lieu dans un quartier du sud-ouest de la capitale. Le candidat a notamment fait campagne autour de la lutte contre la corruption et l'unité nationale. Des thématiques également mises en avant par l'opposant et militant des droits de l'homme Biram Dahabed, arrivé second lors de la dernière présidentielle. Le candidat a choisi, lui, de clôturer sa campagne à Nouadhibou. Du côté des nouveaux candidats qui se présentent comme les candidats du changement, tels que le professeur Outouma Soumaré ou l'avocat Elid Mohamedine, les meetings de clôture auront lieu respectivement au niveau de l'ancien aéroport de Nouakchott pour le premier et à Kaïdi pour le second. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
Midi et 10 minutes en temps universel. La suite de votre journal, Jean-Baptiste Marot. La Bolivie a été hier le théâtre d'une tentative de putsch.
Elle n'aura toutefois duré que quelques heures. Le chef de l'armée, le général Zuniga, qui avait massé des blindés et des soldats armes au poing devant le palais présidentiel, a été rapidement arrêté sur ordre du président Luis Arce. Reste que si le coup d'État a raté, beaucoup de questions subsistent malgré tout ce jeudi, à commencer par celle de savoir comment on en est arrivé là, Rim Lipold.
Même avant l'action du général Zuniga, la situation était tendue en Bolivie. Le pays traverse une grave crise économique et financière accentuée par une pénurie de dollars, une crise qui a provoqué de nombreuses manifestations. Le gouvernement se trouvait paralysé aussi en raison d'une lutte interne entre le président Luis Arce et son ancien mentor, l'ex-président Evo Morales. Ce dernier a exclu Luis Arce du parti MAS et souhaite revenir au pouvoir lors des prochaines élections en 2025. Défiant ouvertement le président actuel, très probable candidat à sa réélection, Evo Morales mobilise déjà sa base, ses députés torpillent la politique du gouvernement et à cela s'ajoutaient des rumeurs qui circulaient depuis mardi sur un possible licenciement du général Zuniga. Il avait déclaré dans une interview lundi qu'il arrêterait Evo Morales si ce dernier continuait à briguer la présidence alors que la justice le lui avait interdit. Et juste avant son arrestation, le général a affirmé agir sur ordre du président Arce qui voulait rehausser sa cote de popularité.
Toujours sur le continent américain, c'est le premier gros temps fort dans la course à la Maison Blanche. Un tout petit peu plus de 4 mois de la présidentielle de novembre. Joe Biden et Donald Trump vont s'affronter lors d'un premier débat télévisé ce soir aux États-Unis. Il aura lieu dans les studios de CNN à Atlanta. Débat pour lequel, vu l'enjeu, plusieurs règles ont été édictées. Pas de public dans la salle pour éviter les potentielles réactions ou applaudissements hués, par exemple, pour éviter qu'ils se coupent la parole. Les micros des deux candidats seront coupés quand ce ne sera pas à leur tour de parler. Quant au mot de la fin, il revient à Donald Trump suite à une décision prise à pile ou face. Alors que les sondages sont très serrés aux États-Unis, le président sortant comme son prédécesseur espère bien sûr que ce premier débat leur permettra de convaincre les indécis. Le seul problème, c'est qu'entre leur âge respectif, la polarisation des discours et la lassitude des électeurs, eh bien nombreux sont ceux qui n'en attendent pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Illustration tout de suite avec ce reportage à Sugar Hill dans la banlieue d'Atlanta. Il est signé Edouard Maille.
Rick German a toujours regardé les débats présidentiels à la télé, y compris le premier de l'histoire du pays entre Kennedy et Nixon, mais depuis quelques années, ça ne l'intéresse plus.
C'est très écrit, c'est très prévisible. Au lieu de parler des vrais sujets, tout devient très politique, très personnel. Il n'y a rien qui en sort, c'est une perte de temps.
Diana, 41 ans, va voter pour Donald Trump. Elle va regarder le débat, mais s'attend à un spectacle de cirque plus qu'une discussion politique.
Quand vous mettez ensemble Trump avec Biden, c'est sûr que leurs propos n'auront pas de sens et qu'il y aura des attaques. C'est assez immature et c'est chaotique et dingue quand les deux se retrouvent.
De son côté, Pat Folsom, une démocrate, veut voir Joe Biden se défendre malgré ses nombreuses erreurs pendant ses prises de parole.
Parfois, il dit des choses décalées, mais il est excellent en débat. Et vous savez, Trump est juste une brute. Il va être bruyant et odieux. C'est presque un divertissement avec lui.
De nombreux électeurs regrettent tout de même le manque de choix politique entre Donald Trump et Joe Biden. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Enfin, 29 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Gros plan pour conclure votre journée, Jean-Baptiste, sur une exposition qui leur est consacrée dans la capitale française.
Une expo qui s'affiche dans les rues de Paris sous la forme de 8 affiches en format XXL. À Anne, dessus, on peut admirer des clichés de Raymond Depardon, le grand photographe de l'agence Magnum. 8 photos qui sont autant de moments historiques saisis par l'artiste à l'occasion de 4 Olympiades entre 1964 et 1976. Isabelle Chenu a rencontré Raymond Depardon pour l'occasion. Reportage.
Ce qui est formidable, c'est qu'on va avoir des gens qui vont sortir d'eux-mêmes un exploit parce qu'ils n'auraient pas pu le faire ailleurs que dans les Jeux Olympiques, avec tous les spectateurs qui vont être là, devant la télé, tout le monde va...
À bientôt 82 ans, Raymond Depardon n'a rien perdu de son enthousiasme pour les Jeux Olympiques. Lui qui a su capturer en une fraction de seconde le point levé de l'Américain Lee Evans. On est en 1968 à Mexico et le vainqueur du 400 mètres proteste avec d'autres athlètes afro-américains contre la discrimination raciale aux États-Unis. Son portrait s'affiche désormais sur 600 mètres carrés en face de l'hôtel de ville de Paris. Des photos réalisées à une époque où la pellicule argentique ne pardonnait rien, comme cette image de la jeune gymnaste roumaine Nadia Comăneci, médaillée d'or en 1976, capturée en saut périlleux parfait sur la poutre.
Il y a un côté de démocratie, tous les pays ont leur chance. C'est très émouvant comme ça, de voir des gens qui montent sur le podium, même à la troisième place. et qui sont tout émus. Puis d'un seul coup, l'hymne national résonne dans ce stade avec 100 000 personnes, et c'est formidable.
Pour Raymond Depardon, photographe de la décolonisation et de la guerre, les Jeux Olympiques sont un moment sans équivalent de compétition pacifique mondiale.
Et c'est la fin de ce journal. Je vous rends tout de suite le micro, Anne Contenaire, pour la suite des RFI Midi.
Merci Jean-Baptiste Marot. Nos auditeurs vous retrouvent tout à l'heure pour un prochain journal. Et puis vous le savez, toutes nos informations sont aussi sur internet RFI.fr et notre application RFI Pure Radio. L'actualité sportive à présent. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors on va parler de l'Euro, de football évidemment, mais d'abord du basket. Et de, on va parler de cette nuit bleue lors de la draft NBA.
Ah oui, on peut pas dire autrement. Quatre Français en tout sélectionnés, vous le savez. Vous en avez parlé il y a quelques instants, la nuit dernière, donc à Brooklyn, parmi les meilleurs espoirs du basket mondial. Hein, ça n'est pas rien. Sélectionnés pour intégrer les franchises nord-américaines la saison prochaine. Trois l'ont été parmi les 10 premiers. Pas mal. Mieux encore, les Frenchies qui ont décidément le vent en poupe, trust les deux premières places de cette draft 2024. Alexandre Sarr, deuxième, rejoint les Wizards, les magiciens de Washington. Et premier, comme Victor Wembanyama l'an passé, Zachary Risaché, 19 ans, va quitter son club de Bourg-en-Bresse pour rejoindre les Hawks d'Atlanta. Ça va le changer, ne serait-ce qu'au niveau climatique. Présentation du phénomène avec notre confrère de l'équipe, Sami Sadik, interrogé par Victor Missistrano.
Ce qui marque, c'est que c'est d'abord un ailier qui a le physique parfait pour être un ailier en NBA moderne. Il est grand, autour de 2m6. Il est longiligne. On l'a vu cette année être appelé notamment en défense, à défendre sur plusieurs postes, à montrer une vraie polyvalence de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui est très recherché en NBA. Et en attaque, en fait, il y a des fondamentaux offensifs qui sont très, très intéressants chez lui, notamment au niveau de son tir. C'est peut-être l'un des meilleurs shooters de cette QV. Et enfin, il a une vraie expérience, un bagage en pro déjà, puisqu'il était sa première saison à Bourg, mais avant il jouait à l'ASVEL, où il côtoyait le groupe professionnel. Donc il vient avec un kilométrage entre guillemets professionnel qui est assez élevé par rapport à d'autres joueurs qui peuvent venir à son âge s'inscrire à la draft NBA.
Avec Zachary Risaché et Sarr, Tidiane Salin, sixième de cette draft, jouera pour les Charlotte Hornets et Pacôme Dadier, 25e, évoluera lui au sein des Knicks de New York.
Allez, on l'avait promis du foot à présent et l'Euro, dont la phase de poule s'est achevée hier avec une sacrée surprise.
Oh oui, c'est pour ça qu'on aime l'Euro et les petits, entre guillemets, qui le sont nettement moins, en fait, quand la compétition démarre. La victoire 2-0, donc, de la Géorgie sur le Portugal, qui était déjà qualifié, assuré d'être premier. Mais tout de même, sacré perf des hommes de Willy Sagnol, qui disputent, on le rappelle, le premier grand tournoi de leur histoire. Un premier succès après un nul et une défaite qui les envoie en huitième de finale. Deux buts inscrits par les stars de l'équipe. Kvaratskhelia, l'ailier de Naples, dès la deuxième minute. Et Georges Mikotadze sur pénalty, l'attaquant du FC Metz, meilleur buteur de cet Euro avec trois réalisations. Mikotadze aux anges, on s'en doute, après cette qualification historique en tant que meilleur troisième.
C'est incroyable, c'est magnifique, c'est des émotions, on peut pas décrire ces émotions, c'est des émotions historiques, exceptionnelles, individuellement comme collectivement avec tous les joueurs, le staff, tout le pays, toute la Géorgie. On est très content d'être passé et d'être en huitième de finale ce soir. Voilà, il faut donner 100% de soi-même et croire en nous, c'est ce qu'on a fait et on a réussi ce soir.
En huitième de finale, la Géorgie de Mikotadze défiera l'Espagne. Ce sera dimanche soir. Deuxième de ce groupe derrière le Portugal, la Turquie, qui a battu les Tchèques 2-1, affrontera l'Autriche le 2 juillet à Leipzig. La veille, les Portugais défieront la Slovénie.
Le 1er juillet, donc, lundi, juste après un certain France-Belgique.
Oui, parce que les Bleus, eux, ont hérité d'une partie de tableau, Anne, bien compliquée avec le Portugal, puis peut-être l'Espagne ou l'Allemagne. Un parcours semé d'embûches qui débutera donc lundi 16h TU par une confrontation face au Diable Rouge, la troisième en 6 ans entre les deux voisins, après la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et puis en Ligue des Nations également en 2021. Deux succès français d'ailleurs à cette occasion. Des Belges deuxièmes de leur groupe E après un nul 0-0 face à l'Ukraine. Un match dans lequel les Diables Rouges ont souffert et gagné beaucoup de temps en fin de match, reconnaît Kevin De Bruyne.
On a essayé de gagner le match et ouais, je pense que jusqu'à 90e minute, on a eu des tirs au but, mais à la fin, tu vois, on n'a pas pris des risques avec le corner. On sait que bah, on peut concéder un but comme l'Angleterre. Et si tu fais ça, t'es dehors. Et après, on a juste besoin de notre supporter, c'est ça.
France-Belgique, lundi 16h, TU à Düsseldorf. Des huitièmes qui débutent samedi avec Suisse-Italie, puis Allemagne-Danemark.
Olivier Pron pour le Journal des Sports. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sportive, ce sera dans RFI Soir, tout à l'heure 18h15, temps universel. Nous vous emmenons maintenant à Kourou, en Guyane. Le centre spatial se prépare au lancement de la fusée Ariane 6, prévue dans 15 jours. Avec 4 ans de retard et après quasiment un an sans accès européen à l'espace, depuis la retraite de la précédente Ariane 5, la jeune Ariane 6 donc est enfin installée sur le pas de tir. Et Justine Fontaine est allée voir comment se passaient les derniers préparatifs. Reportage.
C'est d'ici que sera donné le feu vert pour lancer la toute nouvelle fusée. Raymond Boyce, le directeur des opérations, sera chargé du compte à rebours. Il reconnaît que la concurrence de l'entreprise du milliardaire Elon Musk est dans tous les esprits.
Il y a une pression, il faut y aller, il faut absolument que cette année on puisse lancer. Je ne parle pas ni d'échec ni de succès, mais il faut qu'on puisse lancer cette année pour montrer aussi au monde entier quoi, que l'Europe ne s'est pas terminée. Quoi, parce que maintenant on ne parle que de SpaceX, mais nous on est encore présents.
Le tout premier vol d'Ariane 5 avait échoué, ce qui n'est pas rare pour un lancement inaugural, rappelle Raymond Boyce.
Échec ou pas, c'est sans succès. Puisque bon, tout dépend à quel moment intervient l'échec. Mais ça peut être un succès aussi parce qu'on apprend pour améliorer. Donc moi, je suis très polarisé sur la réussite de ce vol et je suis sûr que ça fonctionnera. On n'a pas pris 4 ans de retard pour rien, donc c'est bien pour peaufiner au maximum.
Apprendre de ces échecs, quitte à perdre beaucoup de fusées, c'est la stratégie de SpaceX, mais pas vraiment celle d'Ariane 6, qui a un modèle de financement public nettement plus rigide. Le mot d'ordre est donc à l'optimisme au sein du centre spatial. Michel Bonnet, directeur pour l'Agence spatiale européenne du vol inaugural d'Ariane 6, tient à relativiser la comparaison avec le concurrent américain.
On ne va pas nier qu'il y a une période compliquée. Après, c'est difficile de comparer le marché, j'allais dire, ouvert à Ariane et celui de SpaceX. Il ne faut pas oublier que SpaceX, son premier client, c'est Starlink.
Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite qui appartient lui aussi à Elon Musk.
Donc, Monsieur Musk, il est lui-même son premier client. Donc, il a une capacité de baisser les prix et de faire une concurrence qui est effectivement déloyale. Bon, il a le droit de le faire, mais on n'est pas du tout dans le même contexte.
Voilà, reportage de Justine Fontaine, c'est un extrait d'un grand reportage Ariane 6, une fusée pour renvoyer l'Europe dans l'espace. Grand reportage réalisé par Pauline Leduc, à écouter en intégralité à partir de 19h40, temps universel sur RFI ou quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio.
RFI.
Notre invitée aujourd'hui est une figure de la lutte pour les droits de l'homme dans son pays, la Turquie, pays qu'elle a dû quitter pour échapper aux tortures et à un acharnement judiciaire. Bonjour Pinar Selek.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, écrivaine, enseignante-chercheuse à l'Université de Côte d'Azur et coordinatrice de l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France. Et à partir de demain, vous serez jugée pour la 5e fois par la justice turque. Vous avez commencé à travailler sur les minorités, vous avez travaillé sur des sujets extrêmement sensibles en Turquie, comme le génocide arménien. Vous vous êtes battue contre les discriminations, notamment contre les LGBT. Mais c'est lorsque vous avez commencé à vous pencher sur le sort des Kurdes que vous avez été arrêtée en 1998.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vous a reproché quand vous avez été mise en prison?
Et quand on m'a arrêtée, j'étais à la fin d'une recherche où, dans le cas, j'avais fait à peu près une cinquantaine d'entretiens dans le cadre de l'histoire orale. Donc, c'était un travail minutieux. Et donc, ils ont confisqué tous mes documents de travail et m'ont demandé de donner les noms de mes interlocuteurs. Et après, oublier cette recherche. Et ils m'ont dit que ça va rester entre nous. Si tu nous donnes les noms et si tu ne continues pas la recherche, et on peut te le lâcher. Donc, j'ai dit non. Et après, donc la torture a commencé. Donc, c'est difficile de répéter la même histoire depuis 26 ans parce que ce procès continue depuis 26 ans. Mais voilà, j'ai pu résister à la fois, enfin. Et ils m'ont mis en prison, et 2 mois après, J'ai appris qu'à la télévision qu'il m'accuse du terrorisme.
Voilà, vous êtes accusé d'avoir joué un rôle dans une explosion qui est survenue cette même année sur un marché d'Istanbul. Vous avez été condamné, puis acquitté.
Non, j'ai été acquitté 4 fois.
Absolument. Oui. Vous avez été condamné et acquitté à 4 reprises. Systématiquement, la Cour suprême a annulé ces acquittements. Donc là, c'est le 5e procès qui reprend demain. Vous, vous battez ici et vous continuez à travailler. Qui se bat pour vous là-bas en Turquie ?
Il y a beaucoup de personnes, mais je voulais juste vous dire que je viens d'apprendre que le pouvoir turc politique continue à intervenir et faire pression sur le tribunal. La police turque a fourni au tribunal un nouveau document relatif à mes activités de recherche universitaire en France. Je ne peux pas donner plus de détails avant l'audience. Je peux seulement dire que la situation créée par cette intervention est très préoccupante car il montre que les autorités turques ne renonceront à aucune manœuvre pour m'intimider et m'inciter à m'abstenir, surtout quand il s'agit de la question kurde ou arménienne ou du nationalisme turc en général. Déjà par le mandat d'arrêt international lancé contre moi il y a quelques mois, ce pouvoir autoritaire a réussi à limiter mon accès à mes terrains de recherche. Je suis la co-coordinatrice observatoire de migration. La plupart de mes recherches sont en Italie, je ne peux pas y aller.
Vous en subissez les conséquences aujourd'hui et ça entrave votre travail.
Académique, oui. Et le message est aujourd'hui, avec ce nouveau document que on va apprendre demain, est très clair. Je dois me montrer prudente quand je parle, tout simplement. Dans le cas d'une conférence universitaire donnée en France ou lors de mes cours face à mes étudiants, surtout à ne pas toucher à la question kurde.
Est-ce que vous sentez menacée aujourd'hui ?
Oui, mais pas seulement moi. L'université française aussi est attaquée. Dans une période où la pensée et la réflexion sont attaquées par le néofascisme partout dans le monde, ils pensent pouvoir intimider mes collègues aujourd'hui. Mais ils auront du mal, je pense. Et les délégations internationales à Istanbul, donc, qui sont commencées à partir prendre les avions aujourd'hui, et ressemblent plus de 60 personnes françaises, mais il y a aussi des Belges, des Allemands, des Suisses, etc., présentes aux côtés de mes très nombreuses et nombreux solidaires à Istanbul. Donc, demain, on va voir que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont réunis, mais aussi les universitaires, mais aussi les personnes très, très simples, les militants des droits humains. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de monde qui vont se réunir là-bas. Il y a aussi beaucoup de mes collègues qui vont être présents à Istanbul, les associations disciplinaires ou les présidents de l'université et beaucoup de mes collègues, mon laboratoire, etc. Mais demain, on va apprendre un scandale. Je n'ai pas le droit de le dire avant l'audience, mais ils accusent mes recherches que je fais en France. Voilà.
Est-ce que ces solidaires, comme vous les appelez, donc toutes ces personnes qui vous appuient, sont menacées elles-mêmes en Turquie ?
Mes solidaires, donc il y a une menace très très générale pour tout le monde. Aujourd'hui, le pays il est devenu une prison, je peux dire. Il y a beaucoup beaucoup de personnes en prison et il y a des otages. Incroyable, des personnes qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait les toucher, ils sont en prison depuis très très longtemps. Et donc, tout le monde se sent en danger, pas seulement parce que ces personnes sont mes solidaires, mais il y a une résistance assez importante. Et mon cas, c'est un peu particulier parce que ça dure depuis 26 ans et ça réunit les générations. À cause de mes multiples engagements, disons, comme j'ai multiples cordes à mon arc, et les personnes très différentes se réunissent et il y a toujours beaucoup de monde et très différent. Il y a
pour vous soutenir, et notamment donc lors d'audiences.
Pardon, oui.
notamment lors d'audiences comme celle qui aura lieu demain. Cinquième procès donc qui est tenu contre vous en Turquie. Je vous remercie d'avoir été en ligne avec nous pour en parler.
Merci beaucoup.
Selek.
Demain, j'ai besoin de votre forte énergie.
Merci beaucoup. On pensera à vous. Merci beaucoup, Pinar Selek, sociologue, écrivaine, enseignante-chercheuse à l'Université de Côte d'Azur et coordinatrice de l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes. C'est dans le sud-est de la France. Vous serez donc jugé pour la cinquième fois demain par la justice turque.
Les élections législatives françaises sur RFI.
Après la dissolution de l'Assemblée nationale française, le premier tour des élections législatives anticipées s'annonce comme un scrutin décisif. Retrouvez ce dimanche dès 18h TU les résultats et nos analyses avec toute la rédaction mobilisée pour vous informer. Nos journalistes politiques seront sur le terrain pour vous proposer des éditions spéciales à la radio et en numérique et vous faire découvrir les premières réactions en France et à l'international. Les élections législatives françaises, ce dimanche sur RFI et RFI.fr.